Radio Kiosque.
Lecture subversive une fois par mois. Radio Kiosque, l'info kiosque radiophonique de Radio Sainte-Afrique.
Garantie sans propagande.
Garantie sans propagande.
Garantie sans propagande.
Bonjour à toutes et à tous. Vous l'attendiez, je le sais. Le Radio Kiosque nouveau est arrivé. Donc je le rappelle, Radio Kiosque est une émission de lecture de brochures, en principe tous les mois, avec pour thème ce mois-ci le travail, ou plutôt l'évolution du rapport au travail, donc tantôt émancipateur, tantôt esclavagiste, même lorsqu'on ne l'a pas, le travail. Donc on commence avec une archive INA de 1962, intitulée « À quoi rêvent les jeunes travailleuses ?»
Aujourd'hui, celles qui travaillent par nécessité ou par goût vous diront quelles sont, d'après leur expérience, les difficultés d'avoir un métier. Ce métier, il faut d'abord le choisir. Et il est bien certain que choisir à 14 ans, quand on finit à peine d'apprendre à lire et à écrire, c'est jouer à la loterie avec un minimum de chances de gagner. Monique et Janine, sa sœur, sont toutes les deux dans ce cas. Elles appartiennent à une famille de 14 enfants. Elles travaillent dans une usine de matériel téléphonique. Elles se ressemblent et font tout pour se ressembler, peut-être parce que cela tient chaud quand on ne vit pas selon son cœur.
Vous avez le même travail, les mêmes vêtements?
Oui.
La même coiffure?
Oui.
Et vous travaillez depuis quel âge?
18 ans.
Est-ce que c'est le métier que vous avez choisi?
Non.
Non. Quel métier avez-vous choisi?
La couture.
Et alors, pourquoi n'êtes-vous pas couturière?
Parce que j'ai travaillé un an et on ne gagne pas sa vie.
Et est-ce que vous aimez le métier que vous faites maintenant?
C'est pas déplaisant.
C'est pas déplaisant?
Non.
Vous préfériez la couture?
Ah bah oui, ça se comprend. Oui.
Combien gagnez-vous par mois?
53, 54 000.
Votre paye, vous la donnez à votre famille?
Oui.
Ou vous la gardez?
Non, je donne ma paye à mes parents.
Régulièrement?
Oui.
Et vous avez votre argent de poche?
Et ma mère me donne mon argent de poche.
Combien avez-vous?
10 000 francs par quinzaine.
Sur lesquels vous devez sortir et vous habiller.
Oui.
Qu'est-ce que vous pensez de votre fille? Elle vous convient?
Ben oui, on est bien obligé.
Et quand vous rêvez à votre vie, comment la voyez-vous? Comment la souhaitez-vous?
Plus aisée, d'abord. Quand même, j'estime qu'une jeune fille devrait arriver à sortir avec moins de difficultés. Surtout en travaillant 9h30. J'estime qu'on devrait y arriver mieux.
Est-ce que votre travail vous apporte une joie en dehors du fait que vous gagnez de l'argent? Est-ce que vous préféreriez rester chez vous avec votre mère?
Oh bah oui, ça c'est automatique.
Vous préféreriez rester chez vous?
Oui.
Quand vous aurez des enfants, vous ne travaillerez plus?
Non.
Et vous pensez avoir autant d'enfants que votre maman en a eu?
Ah non, non.
Vous ne voulez pas?
Ah non, jamais. Pas.
Vous ne voudriez pas avoir la vie de votre mère?
Non, je l'admire, mais je ne voudrais pas avoir sa vie.
Pourquoi?
Parce que c'est trop difficile.
Eh bien non, travailler n'est pas toujours un plaisir. Et pourtant, il arrive aussi qu'un métier, avec toutes ses fatigues, ses déceptions, vous donne quelques-unes des joies qu'on attendait de lui, même s'il est humble et difficile. Pascal, Françoise, Anne-Marie sont amies. Elles se retrouvent le lundi, qui est leur jour de congé. Elles travaillent toutes les trois chez un grand coiffeur parisien. De 9h à 6h, sans interruption, elles font des shampoings, passent des épingles, toujours prêtes à obéir, sans oublier de sourire à des clientes riches et éternellement pressées.
Ça vous a paru difficile de travailler en sortant de l'école?
Oh oui, parce que c'est tout à fait différent. Oui. Ça me plaisait beaucoup mieux parce qu'il n'y avait pas de leçons à apprendre, ni de devoirs. Mais enfin, on a beaucoup plus de responsabilités. Et puis on se prend déjà pour une petite femme quoi, quand on travaille.
Et comment avez-vous décidé de travailler dans la coiffure?
C'est-à-dire que j'avais à choisir entre les marchés et puis la coiffure. Mais je préférais beaucoup la coiffure.
Vous n'aimiez pas les marchés?
Oh non, pas du tout.
Pourquoi?
Parce qu'il fallait se lever tôt, puis il y avait courir. Puis on venait du marché, on était sales, il y avait plein de poussière.
Alors, combien gagnez-vous par mois?
1500 par mois?
Oui.
À peu près, en comptant les pourboires, et puis on est payé par semaine, 30 000, dans les 30 000 francs.
Vous gagnez 30 000 francs.
Oui.
Et ces 30 000 francs, qu'est-ce que vous en faites?
Je donne tout à maman.
Est-ce que vous, vos clientes vous étonnent?
Mes clientes? Oui.
Oui, pourquoi?
Elles sont tellement différentes, alors là...
Alors dites-moi, comment sont-elles différentes?
Elles ont une vie... D'abord, elles ont de l'argent. Bon, alors...
Alors vous, vous n'en avez pas, ou en tout cas, si vous en non. avez, vous l'avez difficilement.
Oui, tandis qu'elles, même si elles travaillent, même si elles, si elles gagnent beaucoup d'argent par leur travail, elles sont vraiment différentes de nous. Elles ont une vie tout à fait... n'ont pas de soucis, par exemple, soucis ménagers. Elles font leur travail. Par exemple, des directrices de couture, elles font leur travail, elles rentrent chez elles, elles s'assiedent dans leurs bonnes qui les servent, tout ça, c'est pas, elles sont pas du tout pareilles que nous. Nous, on travaille, mais c'est continuellement. Quand on arrive à la maison, on n'a pas encore fini de travailler. C'est pas pareil. Ensuite, elles ont une voiture, elles peuvent aller se promener si elles ont envie de se promener. Même si elles ont des enfants, la bonne garde les enfants. Tandis que nous, on peut jamais se payer ça, c'est vrai.
Oui, si vous vous mariez, vous pensez continuer à travailler?
Ah oui.
Oui. Est-ce que vous rêvez quelquefois d'épouser un homme très riche?
Oui, bien sûr, comme toutes les jeunes filles. Mais
est-ce que vous en rêvez plus particulièrement parce que vous voyez des femmes qui sont riches autour de vous?
Oh non, parce que je trouve que d'être... quand on a tout ce qu'il faut, quand on est... on prend pas beaucoup de goût à la vie, on a tout, alors...
De quoi rêvez-vous?
Bon, je rêve pas de grand-chose, moi aussi. Ce que j'ai me suffit, pour l'instant, je m'estime très, très comblée même.
À Fontenay-aux-Roses, dans un cadre agréable, un foyer abrite 250 jeunes filles pour lesquelles travailler, c'est en même temps faire l'apprentissage de la liberté. Roselyne et Arlette exercent un métier qu'elles ont choisi et qui leur convient. Leur amour de l'indépendance les fascine, peut-être un peu au détriment de leur vie.
Vous êtes secrétaire toutes les deux. À quel âge avez-vous commencé à travailler?
À l'âge de 20 ans.
Et 16 ans.
16 ans. Vous avez travaillé en même temps, par nécessité?
Non, par nécessité et par goût.
Et est-ce que vous avez été déçue par le travail?
Ah, pas du tout.
Pas du tout?
Non, non, non. Pas du tout.
Vous estimez faire un travail agréable ou désagréable?
Agréable.
Agréable. Oui. C'est-à-dire que vous faites quoi?
Je m'occupe du courrier, je prends tout le courrier du directeur en sténo, puis je classe des dossiers, enfin j'ai un travail très intéressant.
Alors le patron, qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est? Donner une définition du patron.
Donner une définition du patron, oui.
C'est le type de l'homme désordonné qui se repose sur tout le monde, si on veut. Le patron, c'est monsieur charmant, qui ne me contrarie que très rarement.
Est-ce que vous pensez vous marier un jour?
Je sais pas, je crois pas.
Ça vous paraît inutile?
Non, pas inutile, mais pour l'instant, j'en vois pas du tout. Je me vois pas mariée pour l'instant. Disons, je n'ai pas la vocation.
Ça compte beaucoup dans votre vie, l'indépendance?
Énormément.
Énormément. Alors donnez-moi une définition de cette indépendance, parce que vous avez l'air très sûr de vous.
Eh bien, n'apprendre qu'à compter sur soi, puisque de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Sans indépendance, pas de voyage, plus de solitude, c'est embêtant.
Et cette indépendance, c'est que mènerait du mariage?
Bien, évidemment, quand je suis partie, je ne pensais pas du tout à me marier. Mais il faut bien quand même un jour.
C'est une fin? Marier.
Oui, ce serait plutôt une fin, oui.
Venue de province, elle aussi, Andrée a connu toutes les difficultés de l'isolement, du manque d'argent et du manque de logement. Ces difficultés, elle les a vaincues patiemment et sans se bercer d'illusions impossibles.
Et vous rêviez d'être sténodactylo?
Non, pas tout à fait, étant donné que j'aurais bien aimé être institutrice. Et comme je n'ai pas pu aller au lycée, il me restait que le travail d'employé de bureau à choisir.
Pourquoi ne pouviez-vous pas aller au lycée?
Eh bien... il m'était difficile d'aller au lycée, étant donné que c'était dans 46 que j'aurais dû rentrer à l'internat. Les internats de lycée dans la région que j'habitais à l'époque étaient détruits par l'invasion allemande. Donc, pas possibilité pour mes parents de m'envoyer suivre les cours du lycée. J'ai choisi de venir à Paris pour différentes raisons. D'abord, les salaires sont plus élevés. Et ensuite, parce qu'à Paris, on a davantage la possibilité de se cultiver qu'en province.
Et vous n'avez pas eu de difficultés en arrivant à Paris?
Si, j'ai eu beaucoup de difficultés. Ce logement, je l'ai loué vide. Toutefois, la cuisine était à peu près meublée avec une cuisinière, une table, un buffet. Mais la chambre n'était pas meublée. Mais il a fallu que j'achète un lit et des fauteuils.
Tout cela sur vos mois?
Tout cela sur mes mois, oui.
Et est-ce que c'est votre rêve?
Oh non, c'est loin d'être mon rêve. Parce qu'il n'y a absolument pas d'air, jamais, jamais le soleil. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a qu'une porte-fenêtre qui pour rentrer dans la pièce principale, et dans la cuisine, il n'y a aucune ouverture.
Et combien gagnez-vous par mois?
Je gagne 58 000 francs.
Combien vous reste-t-il?
Il me reste 38 000 francs pour vivre.
38 000 francs pour vivre?
38 000 francs, oui.
C'est peu?
C'est très peu, oui.
Vous devez vous priver?
Bien sûr, il faut quelques privations pour arriver à vivre avec ce salaire.
Combien de robes par an?
Deux.
Deux. Combien de colliers? Je vois que vous en avez un.
Oui, à peu près deux également pour aller avec la robe que j'achète.
Et le prix des robes?
Ben, 10 000 francs, c'est un maximum.
Et vos sorties?
Alors, les sorties, eh bien, évidemment, je choisis des sorties qui ne sont pas trop chères. Et il y a quand même des organisations, des associations qui nous permettent d'avoir des billets à tarif réduit.
Vous avez très profondément le souci de vous instruire?
Très profondément, oui.
Vous lisez les journaux?
Je lis les journaux, oui.
Et vous suivez la politique?
Je la suis d'assez près, oui. C'est-à-dire, surtout depuis le départ de mon frère en Algérie, on ne peut pas concevoir une vie normale. Tant qu'il y aura un danger de guerre qui pèsera même dans quelques coins du globe que ce soit, on ne peut pas avoir un avenir.
Elles sont des centaines pour lesquelles le travail, selon ce qu'il est, d'une obligation peut devenir une joie. Elles sont des centaines aussi qui renonceraient difficilement à l'indépendance et aux espoirs qu'un métier leur apporte. Il faudrait seulement souhaiter que ces espoirs soient dans bien des cas plus justement répartis et que grâce à une bonne orientation professionnelle, travailler ne soit pas mener une vie sans joie.
À l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tout de bonheur.
Ah, 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 oui.
D'humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux.
La, 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 yeah. Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Quel plaisir de travailler pour. On est heureux comme des fous. Merci patron,
merci patron,
merci patron.
Merci patron.
Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra.
Quand on pense à tout l'argent qu'au fin de mois on vous prend, nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes.
Ah, 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 ah oui.
Tout le monde à la maison vous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges.
Like la, like la, yeah. Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux comme des fous.
Merci patron,
merci patron,
merci patron.
Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra.
Mais en attendant ce jour, pour vous prouver notre amour, nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir.
Ah, 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 ah oui.
Nous allons changer de rôle, vous irez limer la tôle, et nous nous occuperons de vos ennuis de patron.
Like, la, like, la, yeah.
Nous serons patron.
Nous serons patron.
Nous serons patron.
Nous serons patron.
Vous le plaisir de travailler pour nous.
Vous serez heureux comme un fou.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
Nous serons patrons.
Ce que vous avez fait pour nous,
nous le referons pour vous.
Light, 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 light.
Et il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, c'est pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.
Et donc vous avez peut-être reconnu, c'était Les Charlots avec le morceau Merci Patron de 1972. J'ai choisi pour la suite et aussi pour contraster avec l'extrait de 1962 un texte qui s'appelle Balade sans emploi, suivi de Lettre à ma conseillère Pôle emploi, publié par Zanzara Athée en 2018 et évidemment disponible sur infokiosque.net. Balade sans emploi à celles et ceux qui rêvent d'éclater un type des acédiques. Ouais, tu parles d'une balade, ouais. J'aurais préféré des calanques ou une belle rando dans les montagnes de l'arrière-pays, fuir la ville au moins quelques heures. Après une heure et demie de marche pour aller jusqu'au fin fond du boulevard de la Val-Barelle, dans une zone industrielle sordide, j'atterris dans une sorte de préfabriqué pour une heure d'entretien qui s'annonce mortelle. Le seul fait de convoquer des personnes dans ces parages sonne déjà comme une punition. Sur 100 personnes convoquées là-bas, un tiers peut-être ne va pas se pointer à la convocation, ne serait-ce qu'à cause du trajet. Les conséquences en sont faciles à deviner. Quitte à se lever tôt, à être au pied du mont Carpiagne à 9h30, ça donne envie de continuer la marche. Mais sacre Dieu, non ! Il y a 450 euros à sauver, un RSA. 400 miettes pour le loyer, 400 miettes pour les factures, 400 miettes pour la bouffe, 400 miettes pour tout ce qu'il faut payer, tout ce qui est trop compliqué à voler. Et puis même voler, c'est pas gratos. Donc les galériens galériennes savent combien la menace de la répression pèse sur leurs illégalismes de survie. Arrestation, garde à vue, jugement, casier judiciaire, prison. La sombre comptabilité de la marchandise et du manque d'argent. On peut aussi se coltiner un travail pourri pour 100 ou 200 euros de plus, sans compter ce qu'il coûte de devoir subir les horaires et les ordres d'un patron. Et cela est incalculable. Mais quel est le choix dans cette équation merdique entre taf, tôle et survie permanente ? Une heure de marche, normalement, ça donne le temps d'imaginer plein de conneries à raconter à son conseiller d'orientation. Effectivement, malgré le fait qu'il y ait souvent un mois pour se préparer, imaginer une histoire, travailler un personnage, on a souvent mieux à faire, surtout quand on est au chômage et qu'on a plein de temps, à défaut de travailler à temps plein. Je peaufine donc sur la route mon personnage spécial rendez-vous insertion. C'est quelqu'un qui n'a apparemment pas envie de travailler et qui n'a pas vraiment envie d'expliquer pourquoi. En tout cas, pas à une personne payée précisément pour le mettre au travail. Donc un peu démotivé, ou plutôt jamais motivé. Un peu lent, un peu mou, un peu muet, pas réactif, pas volontaire, qui doit serrer les dents pour ne pas lâcher un « je n'ai rien à déclarer » comme un réflexe. Pas déprimé non plus. Il faut se méfier avec ces gens-là, ils seraient capables de vous coller une psy sur le dos. Pas complètement désinséré, mais pas inséré non plus. Certainement tir au flanc, et assez ouvertement même. Mais avec un soupçon de retenue, car d'anonymes bureaucrates peuvent coller la mention « précarité volontaire » sur votre dossier et vous faire rayer des listes. Résister à ce genre d'entretien s'avère être tout un art, jamais apprécié à sa juste valeur. Dans tous les cas, tout est fait pour que vous vous pliez au jeu, un bien triste jeu. Endosser le costume du ou de la gagnante, qui en veut, qui est prêt à donner sa vie pour décrocher un job, montrer patte blanche, qu'importe la grosseur du mensonge qu'il faut débiter de façon crédible. Ou alors en faire des tonnes pour justifier ses obstacles à la reprise d'activité. On ressort souvent lessivé de ces moments faits d'hypocrisie et de faux-semblants, avec l'envie urgente d'ôter ce masque hideux, de prendre une douche, ouf, et vite passer à autre chose.
J'avais marre de travailler et de perdre mon temps à faire des boulots mal payés avec des gens très emmerdants. Je cherchais la combine, mais c'est pas facile de se tirer de l'usine pour partir dans les îles. Je me creusais le ciboulot, j'étais comme tous les gens. Allergique au boulot, mais pas allergique à l'argent. Je ne connais qu'une façon de se tirer sous les tropiques. Quand on est petit, les cons n'a pas de fric. Ah, c'est dick. Je t'écrirai de temps en temps. Toi tu m'enverras mon virement directement. Tout là-bas dans mon nid acidique, avec ton ami Rémi, vous serez mes deux meilleurs amis. Ce sera dément. L'Agence nationale pour l'emploi m'écrit de France. Ils veulent à peine au bout d'un mois me gâcher mes jolies vacances. Oh non. En m'envoyant chez Prise Unique décharger des camions avec ma copine acédique. Évidemment, on a dit non. Je veux que ça dure toute la vie, que chaque jour soit férié. Un jour je recevrai l'avis de fin de droit dans mon courrier. Mais faudra me payer cher pour retourner au carnaval du RER et du Leclerc de Bougival. Acédique, je t'écrirai de temps en temps. Toi tu m'enverras mon virement. Sous la barre, dans mon nid acidique, enfin ma place au soleil. À moi le ciel vermeil et les beaux voyages. M'en priver, ce serait dommage. Tu seras ma petite maman, la maman de tous les gens qui n'ont pas d'argent.
Le rendez-vous, quel qu'il soit, où que ce soit, durera à peu près une heure, je le sais d'avance. Une heure d'humiliation scolaire. Quelques questions, quelques informations tapées sur un ordinateur, quelques notes pour rédiger une fiche toute administrative sur mon parcours, ma situation, cerner mon profil professionnel, établir mon diagnostic d'orientation et me réorienter, si besoin est. Ayant égaré ma boussole professionnelle il y a fort longtemps, j'ai dû être réorientée moult fois. Trimballé d'espaces d'insertion en Pôle emploi, en passant par la longue liste des agences à qui l'État délègue la tâche de refaire de vous un bon demandeur d'emploi, il n'y a souvent que la couleur des cloisons qui change. Et quelles que soient les nuances dans le zèle que mettent les agents d'insertion, les ficelles restent globalement les mêmes. Coup de pression, menace de radiation, passage en commission de discipline, diminution de la somme versée chaque mois... Un savant mélange de paternalisme, de condescendance et de culpabilisation, le tout visant à vous faire sentir l'haleine brûlante de l'institution, le picotement du rappel à l'ordre et l'ombre du contrôle au-dessus de votre tête. Ces crapules se donnent beaucoup de mal pour nous faire avaler leur discours moralisateur, nous rappeler à chaque instant que la société ne finance pas le droit à la paresse et que l'État ne donne rien sans contrepartie. C'est l'objet des expérimentations faites dans certains départements où le RSA n'est versé qu'en échange de plusieurs heures de travail bénévole obligatoire. On s'est dit que c'était le moment de régler nos comptes avec la mission locale. Parce qu'elle nous a jamais proposé de formation de bataille de polochon, de joggeuse sur toit d'immeuble, de stratégie à papier caillou ciseaux et de toutes ces petites choses qui rendent nos vies improductives et un peu plus palpitantes. À la place, elle nous propose des jeux ennuyeux, desquels on sort toujours perdant, des formations accélérées pour nous jeter dans les arènes du monde du travail. bris de vitre d'une mission locale à Toulouse en février 2017. Pris dans cet engrenage, on a souvent l'impression d'avoir affaire à une machinerie bien huilée et impersonnelle. Pourtant, celle-ci ne fonctionne que parce que plusieurs milliers de personnes participent à la grande broyeuse. Cette machine à pressuriser les individus, à les transformer en rouages de l'économie. Sans eux, sans elles, il serait impossible d'isoler, de surveiller et de punir les millions de personnes devant pointer à Pôle emploi, à la CAF et haute administration de la survie. Or donc, pas de pitié pour les flics sociaux. 6 années à bouffer de ces rendez-vous, saupoudrées de quelques heures de travail par-ci par-là, un long chemin à esquiver les sommations et les dispositifs mis en place pour nous acculer à passer nos journées à quémander un quelconque poste, à un quelconque employeur, pour un quelconque salaire, dans une quelconque entreprise. Malgré la culpabilisation permanente exercée sur les personnes qui ne travaillent pas, il faut rappeler que le chômage n'est pas l'inverse du travail. Il n'est que son antichambre. Le ou la chômeuse d'un jour n'est souvent que le ou la travailleuse de demain ou d'hier. Les chiffres du chômage sont toujours utilisés pour mettre la pression sur chaque exploité potentiel, pour le ou la forcer à accepter n'importe quel emploi dans n'importe quelle condition, et quel que soit le salaire. En cela, les allocations ne sont qu'une partie du salaire versé à l'ensemble de ce qu'on nomme la force de travail. L'État et les capitalistes font et refont leurs comptes. Pour eux, il est préférable de verser quelques centaines d'euros à plusieurs millions de personnes plutôt que de compter plusieurs millions de personnes dans la misère la plus noire. Le pouvoir est prêt à payer ce prix pour s'assurer le maintien d'une relative paix sociale. Le fameux revenu universel, discuté ces temps-ci, ne changerait pas fondamentalement la donne. Il est tout à fait dans son intérêt que le mythe de l'État-providence ne s'effondre pas totalement. C'est son principal argument pour se faire accepter. Voyez comme la démocratie sait se montrer généreuse. Dans le même temps, il recourt à des moyens bien plus drastiques, expéditifs et sanglants pour maintenir cette paix de cimetière. Ils veulent nous forcer à employer notre temps, à produire ce qui est intéressant pour eux, des marchandises dont la vente engendrera du bénéfice, que ce soit des canons, des paquets de chips, du travail qui participe à la reproduction de l'ordre social présent par le contrôle, la surveillance, la répression, l'encadrement. Soyons irréductibles à leur idéal de formatage. Nous ne sommes des prolétaires, des allocataires, des travailleuses, des producteurs, des salariés, des collaborateurs, selon la dernière mode langagière capitaliste, que dans une société régie par le fric et l'exploitation. Tendons à un autre emploi du temps, œuvrons à la destruction de cette société invivable reproduite chaque jour par le travail. Hier, aujourd'hui, demain, plutôt ingérable qu'agent d'insertion.
Oh, je voudrais. Sauvages les emportent avec le pouvoir qui les suit. Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler. C'est une pratique qui nous rassemble, je les assassine, l'Argentine, nous survivons tous deux ensemble, l'air sur le port d'Anvers. Mais le crime rapproche ceux qui baisent tout doucement en faisant du bruit, et le temps ne saurait effacer le pas des amants tous unis.
Lettre à ma conseillère Pôle emploi. Dans la nuit du 18 au 19 septembre 2016, le boîtier électrique du Pôle emploi de Purpan à Toulouse a été incendié. Fermeture du lieu pendant 3 jours. Bonjour. Vous aviez pris rendez-vous avec moi pour ce lundi 19 septembre. Étant donné que je n'avais plus aucun jour de congé à malencontreusement poser sur la même date, j'ai pris la décision d'incendier dans la nuit votre boîtier électrique. Je dois vous faire une confession. Je déteste le travail presque autant que je déteste la loi. J'espère que ces 3 jours durant lesquels le Pôle emploi de Purpan aura été fermé vous permettront de mieux comprendre mes intentions en profitant des joies d'un chômage technique payé. Je vous prie d'agréer mes salutations les plus brûlantes. Lecture subversive une fois par mois. Radio Kiosque, l'info kiosque radiophonique de Radio Sainte-Afrique.
Garantie sans propagande.
Garantie sans propagande.
Garantie sans propagande.